franceinter.fr.
Jusqu'à maintenant, les scientifiques l'appelaient le hiatus climatique. C'est aujourd'hui la une de la science.
Que fait la température de la Terre? Eh bien, depuis une quinzaine d'années, selon la façon dont on traite statistiquement les courbes et selon les organismes qu'on retient, il n'y a plus de réchauffement. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça dépend des mois, ça dépend des années, mais essentiellement, c'est plat.
Voilà, et ça c'était le fer de lance des climato-sceptiques. Vous entendiez à l'instant la voix de Bernard Ritot. Cette incohérence de mesure qui laissait entendre que depuis 10 ans, le réchauffement climatique ralentissait, n'était en fait qu'une erreur. La revue Science vient de publier une étude importante et attendue qui vient mettre fin à ce mystère. Pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Hervé Douville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de recherche à Météo France, et puis Valérie Masson-Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoclimatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Hervé Douville, quelles sont les conclusions de cette nouvelle étude et en quoi sont-elles importantes aujourd'hui pour la question climatique?
Alors, que nous dit cet article, hein? Il nous dit grosso modo que lorsqu'on applique un certain nombre de corrections, notamment aux températures de surface de la mer observées depuis la fin du 19e siècle, que l'on inclut un plus grand nombre d'observations de température à la surface des continents, et que l'on prolonge les séries observées jusqu'en 2014, eh bien on ne peut plus, comme le faisait le rapport du GIEC rédigé en 2012, conclure un ralentissement récent du réchauffement global, en tout cas par rapport, disons, à la période 1951-2012.
Et si on a appliqué des correctifs, ça veut dire qu'il y avait des erreurs? D'où venaient ces erreurs?
Je voudrais vraiment défendre le GIEC dans cette histoire, parce qu'à mon sens, le GIEC ne s'est pas trompé pour au moins 3 raisons. D'abord, le GIEC avait noté le caractère très incertain du réchauffement global que l'on peut estimer sur 15 ans et notamment sur les 15 dernières années disponibles, et ne disposait pas de l'intégralité des corrections qu'il fallait apporter aux observations pour commenter à bon escient les tendances récentes. Ensuite, le GIEC ne pouvait pas faire l'impasse en termes de communication sur ce sujet, parce qu'évidemment, il aurait été accusé par les climato-sceptiques de dissimuler une vérité dérangeante. Enfin et surtout, le GIEC a toujours dit qu'il fallait considérer avec beaucoup de prudence les tendances estimées sur 1 ou 2 décennies, dans la mesure où elles ne reflètent pas uniquement la réponse du système climatique au forçage anthropique, en premier lieu les émissions de gaz à effet de serre, mais elles relèvent également de la réponse du climat à d'autres forçages, par exemple des éruptions volcaniques, fussent-elles mineures, et surtout de la variabilité interne du climat, indépendamment de tout forçage. On peut citer par exemple le phénomène El Niño dans le Pacifique tropical, qui refait aujourd'hui parler de lui et dont on sait qu'il module la température du globe à l'échelle interannuelle.
Valérie Masson-Delmotte, donc aucune pause dans le réchauffement climatique, c'est ce que nous dit cette étude de Science. C'est important, évidemment.
Alors d'abord, moi, je voudrais aussi préciser un point, c'est que le terme de hiatus, il souligne le fait que du fait des émissions de gaz à effet de serre, on a un déséquilibre des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace qui se poursuit. On a un système climatique qui continue à accumuler de l'énergie, mais sur une certaine période, en l'occurrence entre 1998, un pic de chaleur dû à un événement El Niño, et 2012, cette accumulation d'énergie n'apparaissait pas dans l'évolution d'un des indicateurs du climat, la température moyenne à la surface de la Terre, mais on voyait bien la poursuite d'une accumulation d'énergie en profondeur dans les océans, de même qu'une poursuite de la montée du niveau des mers qui reflétait la fonte des glaciers et la dilatation thermique des océans.
Donc cette étude ne vous surprend pas, donc,
Non, c'est une étude qui n'est pas surprenante, d'autant plus qu'auparavant, on a également d'autres études intermédiaires qui avaient montré que dans les données météorologiques et les données de température de surface des océans qui sont utilisées pour cet indicateur température moyenne à la surface de la Terre, on avait un biais dans la mesure où le nombre de stations météorologiques en Arctique est relativement réduit. Or, c'est une des régions qui s'est le plus réchauffée au cours des derniers 20 ans. Donc le fait de manquer d'informations dans cette région-là conduisait à une légère sous-estimation de l'ampleur totale du réchauffement.
Donc ça veut dire que c'est quand même très difficile de déterminer précisément les causes du réchauffement sur une période courte de temps?
Alors en fait, dans les variations de la température moyenne à la surface de la Terre, d'une année à l'autre, ou sur des périodes relativement courtes, moins d'une vingtaine d'années, on a bien sûr les termes qui vont jouer, ce sont les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace, mais aussi la répartition de l'énergie accumulée entre l'atmosphère et les océans. C'est ce que Hervé tout à l'heure décrivait avec le terme de variabilité interne au système climatique. Et pour continuer en fait à décrire donc ces évolutions très récentes sur les derniers 15 ans entre 2000 et 2014, on voit par exemple que par rapport aux 50 ans précédentes, le réchauffement est particulièrement prononcé autour de l'Arctique, mais il est particulièrement réduit sur les continents à environ 45 degrés de latitude nord. Donc à cette échelle de temps-là, on a une superposition d'une tendance lente, pilotée par l'influence de l'homme, mais aussi une variabilité importante d'une année à l'autre et même d'une décennie à l'autre, du fait de processus internes à la variabilité océan-atmosphère.
Hervé Douville, quand on essaie d'estimer à 10 ans, est-ce qu'on ne mélange pas un peu météo et climat ?
Alors, on est au-delà de la météorologie à 10 ans, mais néanmoins, comme le disait Valérie, on mélange plusieurs échelles de temps, celles qui sont vraiment intrinsèquement liées à ce qu'on appelle les forçages anthropiques, c'est-à-dire le fait que les gaz à effet de serre émis par l'homme ont vocation à s'accumuler dans l'atmosphère et que ces émissions cumulées influencent directement la température du globe, et d'autres échelles de temps où interviennent d'autres forçages qui sont, par exemple, plus sporadiques, comme les éruptions volcaniques dont je parlais, par exemple, la dernière éruption majeure, pardon, l'éruption du Pinatubo en 91 a modulé sensiblement le réchauffement, et aussi donc des phénomènes intrinsèques au système couplé océan-atmosphère. Comme le disait Valérie, on a des échanges en fait de chaleur hein, entre l'océan et l'atmosphère. On dit grosso modo que 90% de l'énergie piégée par effet de serre croissant dans le système climatique se retrouve dans l'océan. Et donc, par exemple, le phénomène El Niño, qui est aussi connu sous le nom d'oscillation australe pour sa manifestation atmosphérique, ce phénomène, finalement, a vocation à transférer de la chaleur de l'océan vers le continent lorsqu'il est l'atmosphère lorsqu'il est dans sa phase chaude. Et c'est pourquoi, en fait, il faut, si on devait tirer une leçon de cette controverse apparente sur le hiatus, moi j'en vois au moins une, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait attendre de l'accroissement des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, en fait on n'a pas vu d'accélération du réchauffement. Ce papier nous dit, certes, il n'y a pas eu de pause réelle, ni même de ralentissement, mais ne dit toujours pas qu'il y a eu accélération. Et s'il n'y a pas eu accélération du réchauffement global depuis le début du XXIe siècle, c'est très probablement, au vu des travaux récemment effectués par la communauté, des modélisateurs du climat, que la variabilité interne a joué dans le sens d'une limitation du réchauffement. Ce qui signifie que nous devrions malheureusement être confrontés prochainement à un phénomène de rattrapage. Et finalement, ça veut dire qu'on devrait être confronté à une accélération du réchauffement global au cours des prochaines décennies.
Valérie Masson-Delmotte, est-ce qu'une publication comme celle-là ne finalement donne pas raison à une des thèses des climato-sceptiques avec la difficulté de faire des estimations à court terme sur l'évolution climatique ?
Alors, en ce qui concerne l'évolution à court terme du climat, c'est un objet de recherche extrêmement important. On sait bien que sur le long terme, son évolution, elle est dominée par le bilan des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace. Mais à court terme, on a un rôle déterminant de cette variabilité interne. Pour la première fois, par exemple, dans le 5e rapport du GIEC, il y avait un chapitre qui portait justement sur les recherches émergentes visant à avoir construire une prévision de l'évolution du climat à l'échelle de moins de 30 ans, alors que pour le plus long terme, on parle de projection. Et en ce qui concerne donc cette capacité de prévision à relativement court terme, elle va dépendre de notre capacité déjà à observer en temps réel l'état de l'océan en surface mais aussi en profondeur. Et puis ensuite, en intégrant ces observations, arriver à anticiper sur quelques semaines, quelques années, sur son évolution. Et si par ailleurs on a des forçages supplémentaires qui agissent sur le climat, tout à l'heure Hervé a parlé des éruptions volcaniques, on a une capacité, si on a une éruption volcanique importante, à arriver à affiner finalement ces calculs pour guider l'adaptation possible sur des échelles de temps qui peuvent aller jusqu'à quelques années, voire quelques dizaines d'années dans certaines régions.
La COP21 va se tenir en fin d'année. Est-ce que ça a du sens, au vu de ces résultats, de tenir des objectifs à court terme ? On ne saura pas si l'impact est celui souhaité.
Alors le seul objectif qui existe en matière de gouvernance du climat, c'est l'objectif politique que se sont fixés les Nations Unies suite à l'accord de Copenhague de 2009, c'est-à-dire de limiter l'ampleur du réchauffement à 2 degrés, c'est-à-dire par rapport au climat du 19e siècle. C'est le seul objectif pour le moment qui existe. Le lien entre les émissions cumulées de gaz à effet de serre et l'évolution du climat, elle joue sur le long terme, c'est-à-dire c'est le cumul des émissions de dioxyde de carbone au premier ordre, passées, présentes et futures, qui va conditionner l'ampleur du réchauffement à venir. Et en gros, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport au 19e siècle, il faut qu'au lieu d'augmenter chaque année, les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines se stabilisent au plus vite, d'ici une dizaine d'années, diminue ensuite fortement et soit quasiment nul à la fin de ce siècle. Et c'est uniquement cette trajectoire-là qui permettrait de limiter l'ampleur du réchauffement à peu près au rythme actuel d'ici à 2050 et puis le stabiliser cette évolution du climat.
trajectoire qui sera évidemment très difficile, on le sait tous déjà, à tenir. Merci beaucoup en tout cas Hervé Douville et Valérie Masson-Delmotte pour vos explications, donc pour commenter cette étude importante parue samedi à Axel dans Science, et qui, donc, qui indique qu'il n'y a pas eu de pause autour du réchauffement climatique ces dernières années.
Qui tire un trait sur ce mystère.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci, au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
Axel, on réécoute évidemment la Une de la Science comme toujours.
En podcast tous les jours sur le site franceinter.fr.
Allez, en bref. Dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs du département d'astronomie de l'Université de Columbia aux États-Unis ont réussi à mesurer la masse de la Voie lactée. Et comme on pouvait s'y attendre, la réponse est 42, plus précisément 42 milliards de milliards de milliards de milliards de kilogrammes. Pour en arriver à ce résultat, les astronomes ont d'abord mesuré la masse d'un amas d'étoiles appelé Palomar 5, puis grâce à des simulations, ils ont estimé celle du reste de la Voie lactée. Leur fourchette d'erreur est quand même de 20%, mais c'est un record de précision pour une telle galaxie. Votre mémoire virale contenue dans une goutte de sang, c'est sur ce principe que repose VIRSCAN, un test développé par des chercheurs de Boston. Le sang contient les anticorps des virus qu'il a combattus. En les isolant, les médecins peuvent facilement dresser un bilan de santé présente et passée de leurs patients. Après avoir testé sur plus de 500 personnes à travers le monde, VIRSCAN rate encore certains parasites. Les chercheurs travaillent donc à le rendre plus fiable. Et puis pour finir, voici une recette peu commune. Achetez une boîte de pétri, ajoutez-y un milieu de culture, demandez à votre enfant de poser sa main après avoir joué dans le parc, incubez l'assiette à 37 degrés pendant 24 à 48 heures et puis laissez-la reposer à température ambiante pendant plus de 3 jours. Voici le processus que s'est amusé à suivre un professeur de microbiologie sur son blog. Le résultat donne une empreinte palmaire bactériologique magnifique que vous pouvez retrouver en photo sur la page Facebook de La Tête au Carré.